Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Gouvernement et représentants de la majorité se réunissent aujourd'hui. Un séminaire chargé à Matignon pour mettre en place les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Réforme constitutionnelle, baisse d'impôts pour les classes moyennes, réindexation des petites retraites. Nous y revenons dans un instant. Nous irons aussi en Espagne, où le Parti Socialiste remporte les législatives, mais il va devoir négocier pour former une coalition gouvernementale. La gauche ne suffit pas. Et puis au Japon, où les habitants bénéficient de 10 jours de congé en raison de l'abdication de l'empereur. 10 jours, c'est un peu trop, disent-ils. Après les annonces, place à l'organisation. Le gouvernement et les présidents de groupes de la majorité au Parlement se réunissent donc aujourd'hui à Matignon, séminaire gouvernemental inédit. Il doit servir à discuter de la mise en place des mesures annoncées par Emmanuel Macron jeudi dernier, mesures qui doivent répondre aux aspirations soulevées par le grand débat national. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui va mener ce séminaire car le président de la République veut déléguer Stéphane Goyer.
Emmanuel Macron l'a dit, annoncé lors de ses annonces devant la presse jeudi dernier, il ne rentrera pas dans les détails des mesures. Avec ce séminaire, c'est un petit peu la partie technique qui commence pour éviter, pourquoi pas, la centralisation de la décision.
Vous m'avez, à nombreuses reprises, et c'était pas faux, reproché de décider de tout seul. Et là, je vous dis, non, le président de la République peut pas faire tout seul, vous avez raison, je vous donne le point. Il doit donner un cap, prendre des orientations, assumer des choix difficiles et clarifiés. Je l'ai fait sur les retraites, mais cette nouvelle phase qui inaugure une nouvelle méthode fait que je ne vais pas non plus me substituer au gouvernement et répondre à votre question.
Et les délais annoncés réclament forcément une réponse et une organisation rapide. Les réformes des retraites ou de l'assurance chômage attendues pour cet été. D'ici le mois de juin, la réforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, avec le tirage au sort de 150 citoyens pour participer à la prise de décision. Et puis aussi, et c'est loin d'être négligeable, les mesures économiques et sociales. L'un des grands chantiers dévoilés jeudi soir par le président de la République. La réindexation des retraites sur l'inflation, la révision des niches fiscales pour les entreprises, la réduction de l'impôt sur le revenu. Autant de choses qui se décideront lors de l'examen du projet de loi de finances à l'automne prochain, mais qui vont forcément déclencher un branle-bas de combat dans les ministères, et notamment du côté des équipes de Bercy.
En France, c'est donc l'exécutif et le Parlement qui décident face aux volontés exprimées dans la rue et dans le débat national par les Français. En Suisse, ce sont quelquefois les habitants eux-mêmes qui décident et qui votent, sorte de référendum d'initiative citoyen à main levée. Nous vous emmenons ce matin dans le canton d'Appenzell-Rhodes-Intérieur, dans le nord-est du pays. La Landsgemeinde, ou Assemblée populaire, se réunit une fois par an dans ce canton, en grande pompe, élection du gouvernement, budget, rénovation des bâtiments, tous les sujets sont mis sur la table. Notre correspondant Jérémy Lange s'est rendu sur place.
Je suis une femme politique, je ne peux pas m'imaginer de pas être part de cette participation du peuple.
Comme chaque année, Charlotte Kuhn attend avec impatience le jour de la Landsgemeinde à Appenzell, car ici les femmes n'ont pas toujours eu voix au chapitre. Depuis le XIIIe siècle, seuls les hommes pouvaient voter lors de l'Assemblée populaire. La justice suisse en a décidé autrement en 1991, et c'est tant mieux, dit Andreas Koller, lui aussi un fervent défenseur de la Landsgemeinde.
Cette institution est la forme la plus efficace de démocratie parce qu'il faut s'imaginer qu'en 3 ou au max 4 heures, nous votons toutes les lois de l'année. Chaque citoyen peut lancer une initiative, donc c'est très très démocratique.
Le système comporte pourtant quelques failles. La Landsgemeinde ne peut pas fonctionner dans des villes trop peuplées. Si vous êtes malade ou juste absent, vous ne pouvez pas voter. Et si vous votez, tout le monde peut savoir pour qui ou pourquoi. Difficile dans ces conditions d'exporter le modèle, admet le nouveau chef du gouvernement d'Appenzell, Roland Inhoen.
Je ne crois pas que d'autres cantons veulent instaurer ou réinstaurer la Landsgemeinde. C'est une certitude. Mais je ne crois pas non plus que ceux qui ont aujourd'hui ce type d'assemblée populaire, comme ici à Appenzell et à Glaris, vont s'en séparer. On continuera encore de voter à main levée dans 30 ans, j'en suis convaincu à 100%.
Et à Appenzell, on compte au moins autant d'électeurs pour la Landsgemeinde que pour les élections au Parlement suisse. Le folklore qui entoure l'événement n'y est pas pour rien. Avec la fanfare omniprésente, les habits traditionnels des élus, l'épée que portent les électeurs à leur ceinture. En 2019, la Landsgemeinde d'Appenzell concerne autant les électeurs du canton que les centaines de touristes venus pour l'occasion.
Jérémy Lange en Suisse pour France Culture. Je vous le disais en sommaire de de ce journal, cette élection-là se joue dans les urnes en Espagne. Pour la troisième fois en près de 4 ans, les électeurs se sont prononcés lors d'élections législatives. Et c'est le parti du Premier ministre sortant, Pedro Sanchez, qui emporte ces élections. Le parti socialiste, vainqueur, sans cependant de majorité absolue, il compte 123 députés. Il en fallait 176 pour former seul un gouvernement. Avant le début des tractations pour trouver une coalition, le parti a tout de même fêté tout cela hier soir. Et notre correspondante Marie-Hélène Ballestero y était.
Ambiance de fête au siège du Parti Socialiste à Madrid car les résultats sont bons. Comme prévu, les socialistes remportent ces élections et progressent nettement par rapport aux dernières célébrées en 2016 lorsqu'ils avaient obtenu 85 sièges au Parlement espagnol. Victoire du PSOE et victoire personnelle aussi de Pedro Sanchez qui revient de très loin. Il y a 2 ans et demi, en octobre 2016, il avait été poussé vers la porte de sortie du Parti Socialiste. Puis, le tenace Sanchez était revenu contre toute attente en mai 2017 en redevenant secrétaire général. Sanchez a tenu bon et il obtient donc un très bon score même s'il ne parvient pas à la majorité absolue. Résultat, il va devoir nouer des alliances pour former un gouvernement. Une alliance avec Podemos ne serait pas suffisante. Les négociations s'annoncent déjà compliquées.
Le Parti Socialiste en tête donc, mais pas majoritaire. Le Parti Populaire libéral-conservateur arrive lui deuxième, loin derrière. Notons que l'extrême droite avec Vox entre à l'Assemblée avec 24 députés. C'est moins que ce que espérait le parti. Quelles alliances donc peuvent maintenant se faire? Quelle saveur à la victoire des socialistes? Question posée à l'historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine, Benoît Pellistrandi.
C'est un succès en demi-teinte. Les socialistes, effectivement, sont largement en tête et les centristes obtiennent un excellent résultat puisqu'ils passent de 32 à 57 députés. Si bien que le virage à droite que Vox a imprimé à l'ensemble de la campagne du bloc des droites n'a pas du tout servi la dynamique de la droite, mais au contraire, a renforcé le centre-gauche et le centre-droit, si bien que, contrairement à tous les pronostics, la seule majorité parlementaire viable serait une alliance entre les socialistes et les centristes. Mais pourtant, pendant la campagne, les centristes ont refusé cette hypothèse. Il va donc falloir maintenant beaucoup négocier. Ce qui est important aussi de voir, c'est que, contrairement aux craintes que la gauche avait alimentées, Vox ne sera absolument pas déterminant dans le prochain Parlement. Certes, c'est un résultat considérable, mais ce n'est pas le succès qu'avaient enregistré les jeunes formations Podemos ou Ciudadanos il y a 4 ans.
L'historien Benoît Pellistrandi, il répondait à Noé Da Silva. Quel est l'état de notre biodiversité? Comment la protéger? À partir d'aujourd'hui, à l'UNESCO à Paris, scientifiques et représentants de 132 pays vont se retrouver. Réunion du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui doit durer 1 semaine. Soulignons que 5% des espèces connues ont déjà disparu et que 15% sont menacées de l'être. Le climat en question est des inondations. Sur l'île indonésienne de Sumatra, des pluies intenses ont fait au moins 17 morts et 9 disparus. Quand dans le même temps au Canada, à l'ouest de Montréal, plus de 6000 personnes ont dû être évacuées ce week-end en urgence, là aussi à cause d'inondations. Partons maintenant au Japon, où comme tous les ans début mai, les salariés ont quelques jours de congé. Cela s'appelle la Golden Week, la semaine en or. Mais cette année, elle compte 10 jours de congé offerts par le gouvernement en raison de l'abdication de l'empereur Akihito et de l'intronisation de son successeur, son fils aîné Naruhito. Dans un pays réputé pour être très travailleur, ces congés ne font pourtant pas forcément bien perçus, Karine Nishimura.
Les salariés japonais ont droit à 3 semaines de congés payés dans l'année, mais en moyenne, ils n'en prennent que la moitié. Alors, 10 jours d'un seul coup, c'est exceptionnel, comme le souligne cette marchande de vêtements.
Les Japonais sont des bêtes de somme, beaucoup ne se reposent pas, alors pour une fois, c'est peut-être pas mal.
Seulement voilà, s'arrêter de travailler pour la majorité des Japonais, ce n'est ni réjouissant, ni reposant, c'est angoissant.
Je ne me suis jamais vraiment reposé, alors 10 jours c'est impensable, je ne sais pas comment les passer. En m'arrêtant, je crains au contraire de perdre mon travail.
Pourtant, les voyagistes et hôteliers ont concocté des offres spéciales pour ces congés inédits, mais encore faut-il en avoir les moyens, rétorque la mère de famille Yamasaki.
Voyager coûte trop cher, d'habitude je pars, mais cette fois non, et en plus c'est plein partout, bref c'est embêtant.
Le pays ne s'arrête pas de fonctionner pour autant. La plupart des boutiques sont ouvertes, mais beaucoup s'inquiètent de la fermeture des cabinets médicaux ou du risque de manquer de billets de banque parce que les distributeurs automatiques ne seront pas rechargés. Car au Japon, on paye encore, surtout en liquide. Et ceux qui travaillent quand même se plaignent de ne pouvoir faire garder leurs enfants. Bref, 10 jours fériés, c'est trop.
Alors en France, en cette semaine marquée justement par un jour férié, ce sera le 1er mai dans deux jours, eh bien le temps s'améliore un petit peu. Après quelques pluies sur l'extrême ouest de la Bretagne et des nuages bas de la Lorraine à l'Auvergne, le soleil prendra ses quartiers dans l'après-midi sous des températures toujours un peu fraîches. Il fait ce lundi matin 9 degrés à Besançon, 11 à Lyon, 12 à Lille, Paris et Rennes, 13 degrés à Bordeaux, comptez 17 à Perpignan et à Nice.